Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue et d'ouvrir cette séance par une invocation au bon Dieu. Nous demandons au Saint-Esprit les lumières et la force de continuer. Notre ancien président, M. Paul Germanier, a lu pour nous le livre de Jean Madiran, L'accord de Metz, ou pourquoi notre mère fut muette. Et sans plus attendre, je lui passe la parole.
Bonsoir messieurs et mesdames, merci d'être là. L'accord de Metz. Peut-être vous dire comment il est conçu. Avant de parler exactement du sujet, Jean Madiran écrit ceci avant le propos d'un laïc catholique. Donc avant qu'il commence, il fait une petite deux réflexions que je vous résumerai. Les chapitres sont au nombre de 6, plus un épilogue, plus une annexe. Le premier chapitre, c'est le piège œcuménique. Le deuxième, c'est comment on a su qu'il y a eu ce piège œcuménique, 1961-62. Le troisième, c'est la double hardiesse de Jean XXIII. Le quatrième, c'est persistance et extension de l'accord de Metz. Chapitre 5, Paul VI, le pape de l'accord de Metz. Chapitre 6, Jean-Paul II et la délivrance. Épilogue 2006, comment ça se trouve en 2000, et une annexe, là je ne vous dis pas de quoi il s'agit, parce que ça va certainement, pour ceux qui n'ont pas lu ce livre, être une surprise monstrueuse, vous verrez. Donc, avant le propos de ce laïc, voici ce que nous dit Jean Madiran. Il revient sur quelque chose que nous avons travaillé ensemble, c'est-à-dire le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Comment se comporte-t-il dans notre société? Et on avait vu ensemble que jamais de confusion, jamais de séparation, mais distinction et collaboration. Et Jean Madiran, à ce propos, dit ceci. Quand les nations d'Europe étaient chrétiennes, le partage des responsabilités entre le clergé et les fidèles était réglé par la distinction et la coopération du pouvoir spirituel, c'était l'épiscopat, et du pouvoir temporel, c'était l'État. Distinction et coopération. Selon la parole de l'Évangile, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, c'était quand les nations étaient chrétiennes. Aujourd'hui, c'est assez différent. La responsabilité du temporel, spécifiquement, disons, chrétien, c'est-à-dire l'action politique, l'action sociale des catholiques. L'action sociale, elle concerne la famille, elle concerne l'école, elle concerne la culture, la vie associative, etc. Ne peut être abandonnée, dit-il, à un pouvoir politique qui, par principe, est laïque, neutre ou hostile. Donc c'est plus possible, parce qu'il n'y a plus. En effet, l'Église n'a plus pour interlocuteur temporel aucun État catholique. Mais cette situation nouvelle n'impose nullement aux laïcs catholiques d'abandonner à la hiérarchie ecclésiale le pouvoir du temporel catholique. Il n'y a aucune obligation. C'est la première remarque qu'il fait, avant de parler comme laïc catholique. La deuxième, il dit qu'il y a un tort grave qui a été, dont les conséquences dramatiques durent encore, a été fait au temporel catholique par Vatican II, spécialement par sa constitution Gaudium et Spes, en désertant spectaculairement toute opposition explicite au communisme mondial. L'attitude du Concile était présentée naturellement comme un exemple à tous les catholiques, au moins, puis même aux chrétiens, mais surtout aux épiscopats. Bon, il parut donc louable d'imiter son omission, l'omission du Concile. Une telle neutralité, dit-il, était un désarmement. Et les communistes devenaient les seuls à parler du communisme. Vatican II ayant décidé de traiter de tous les problèmes politiques et sociaux contemporains, sauf du communisme. Or, un tort grave, dit-il, causé aux temporels catholiques, regarde les le laïcat chrétien. C'est à lui d'en prendre acte et d'y pallier selon ses moyens. Ce qui correspond finalement à ce qu'on a dit au début, temporel, distinction, etc. Il donne donc raison au mouvement chrétien conservateur qui essaie justement de faire ça, parce que nous sommes tous des laïcs, et ça me permet de, juste en passant, signaler que dans le Nouvelliste, M. Franzé a fait paraître les principes chrétiens que nous défendons dans cette optique. Mais évidemment, il ne suffit pas de les mettre dans le journal puis de les laisser dans le tiroir après. Il faut qu'à chaque élection, on réfléchisse, on cherche ce qui se passe et on défende les principes qu'on a dit qu'on voulait défendre. Voilà l'avant-propos du laïc Madiran qui veut traiter du concile de Vatican II dans le temporel, dans le pouvoir temporel. Le premier chapitre, c'est « Piège œcuménique ». Le 25 janvier 1959, Jean XXIII annonce qu'il va réunir un concile, 59. Mais ce concile, il le prévoit très court. Ce sera un concile œcuménique. Bah, c'est le premier quiproquo. Les catholiques, si le sens est juste, on appelle œcuménique parce que c'est le nom catholique spécifique de tous les conciles. Il y a eu 20 conciles avant celui-ci, ils étaient tous œcuméniques, parce que le sens œcuménique était le concile de toutes les églises, de tous les épiscopats réunis à Rome, prenant des décisions qui les concernaient tous. Plus le même sens aujourd'hui, avec le conseil œcuménique des différentes religions chrétiennes. N'importe qui, quand vous dites conseil œcuménique, il a autre chose en tête. Il dit, mais il y a les protestants, il y a toutes les religions, même les juifs qui sont invités au concile, etc. Donc, un quiproquo. Madiran écrit, mais l'opinion publique croit qu'un concile œcuménique réunissant toutes les églises a pour but de rassembler toutes les confessions chrétiennes. Même l'opinion catholique, mais catholique, l'entend ainsi et s'enthousiasme de plus en plus pour ce qu'elle imagine comme un rassemblement des religions, à une attente aussi intense et qu'il a laissé grandir. Jean XXIII ne pouvait guère s'y opposer et dire un nom pur et simple. Ça n'aurait pas passé. On va donc se préparer à inviter au concile les représentants des autres religions chrétiennes, voire de la religion juive. Dans les autres religions chrétiennes, la religion la plus proche du catholicisme romain, c'est l'Église orthodoxe. C'est d'ailleurs la seule que l'Église catholique ait tendance à reconnaître comme une Église. Elle est schismatique. Toutefois, la succession apostolique y est authentique. Ses ordinations sont valables, à la différence des ordinations anglicanes, par exemple. Mais la plus grande partie de l'Église orthodoxe est l'Église russe. C'est pas la grecque, c'est pas l'arménienne, c'est la russe qui n'est plus libre. Nous sommes en 60. Le porte-parole de l'Église orthodoxe et son diplomate accrédité auprès des autorités civiles et religieuses occidentales est Monseigneur Nicodème, qui est en quelque sorte dans l'Église russe le numéro 2, le numéro 1 étant le stalinien Alexis. On sait mal à Rome qui est réellement ce Monseigneur Nicodème que le quotidien communiste L'Humanité, écoutez bien, appelle respectueusement sa haute sainteté Monseigneur Nicodème, afin sans doute de renforcer l'apparence religieuse de cet agent soviétique qui est né en 1929. il n'a pas, en 62, il n'a pas 34 ans. Brillant sujet, carrière foudroyante, signe évident de la confiance des autorités soviétiques. Il a rempli plusieurs missions à l'étranger. Par exemple, à New Delhi, en novembre 1961, il a fait admettre le patriarcat de Moscou dans le Conseil œcuménique des Églises. Alors, c'est pas le concile œcuménique, c'est le Conseil œcuménique des Églises. Et surtout, il déclare, là, en 61, que le patriarcat de Moscou acceptera d'envoyer au concile des observateurs. S'il a l'assurance que dans ce concile, il n'y aura pas de déclaration, et là c'est ses paroles exactes rapportées dans la presse, de déclaration hostile au pays que nous aimons, donc la Russie. Le piège est en place. Rome ne voit pas que Nicodème est un agent soviétique. Des négociations secrètes ont donc lieu en 1962 entre le cardinal Tisserand, représentant du Saint-Siège, et d'autre part Monseigneur Nicodème, représentant du patriarcat de Moscou et en réalité du Kremlin. Elle se déroule dans le diocèse de Monseigneur Schmitt, évêque de Metz, et là on ne pouvait pas mieux tomber parce que c'est l'évêque qui professe que, puisque le monde change, la conception du salut apportée par Jésus-Christ doit changer elle aussi. L'accord de Metz va projeter son ombre, une ombre puissante, sur tout l'aspect temporel du changement conciliaire. Il met une note sur Monseigneur Nicodème. Monseigneur Nicodème a fait en France une longue visite d'inspection, peu après l'ouverture du concile. Au mois de décembre 1962. Le 17, il s'est entretenu avec les journalistes et selon La Croix et selon Le Monde, du 19 de décembre 1962, il a déclaré, et je cite les journaux de l'époque, « Le rapport entre l'Église orthodoxe et l'État soviétique sont normaux. Et les fidèles exercent de plein droit leur culte. Le principe de la coexistence est admis. Cela n'empêche pas qu'il y ait lutte de deux idéologies en URSS. Ainsi, la propagande athée est idéologique et le Parti communiste mène la lutte contre la religion. On est d'accord ? En tant que cette dernière est à ses yeux une idéologie. C'est toujours Nicodème qui dit « Cependant, le gouvernement protège aussi bien les croyants que les non-croyants. » Ça a paru dans la presse, pas dans les journaux communistes, hein, La Croix, Le Monde. On voit ici à quel point Monseigneur Nicodème ne dit pas la vérité. La vue idyllique d'une confrontation idéologique entre chrétiens et communistes, sous l'arbitrage impartial du gouvernement soviétique, est un mensonge conscient et délibéré. Le gouvernement soviétique n'est qu'un instrument de la véritable autorité en Russie, en Russie soviétique, en URSS, qui est le Parti communiste. D'ailleurs, le secrétaire général du Parti communiste est toujours chef du gouvernement, ou presque. Même si c'est même pas toujours. Voilà. C'est le premier chapitre. Le deuxième, comment est-ce qu'on a su ça? Vatican II s'ouvre le 11 octobre 1962 et les observateurs soviétiques arrivent le lendemain. C'est seulement au début de l'année suivante, donc en 63, qu'un journal communiste révèle l'existence d'un accord secret par lequel l'Église catholique a pris l'engagement qu'il n'y aurait au Concile aucune attaque contre le communisme. C'est le journal France Nouvelle, l'hebdomadaire central du Parti communiste français, qui révèle le 16 janvier 1963 l'engagement qui a été pris par l'Église catholique. Voici ce qu'il dit. Parce que le système socialiste mondial manifeste d'une façon incontestable sa supériorité et qu'il est fort de l'approbation de centaines et de centaines de millions d'hommes, l'Église ne peut plus se satisfaire de l'anticommunisme grossier. Elle a même pris l'engagement, à l'occasion de son dialogue avec l'Église orthodoxe russe, qu'il n'y aurait pas dans le concile d'attaque directe contre le régime communiste. Voilà la presse communiste française, 1963. Cette révélation, est-ce qu'elle a suscité un émoi dans le monde? Aucun. Cette révélation ne suscite aucune émotion visible. Elle est accueillie avec la plus grande discrétion. Les grands médias, eux, pensaient bien qu'ils ne la commentent pas. Mais la Croix rapporte discrètement, elle, en quelques lignes, des révélations que fait Mgr Schmitt. Et la Croix du 15 février 1963, dans ce journal, on lit ceci. Le journal Le Lorrain, du 9 février, publie le compte-rendu d'une conférence faite aux journalistes par Mgr Schmitt. Des précisions intéressantes ont été apportées par l'évêque de Metz sur les antécédents de la présence à Rome d'observateurs de l'Église orthodoxe russe. Voici ce qui est dit et qui est relevé mot pour mot. C'est à Metz que le cardinal Tisserand a rencontré Mgr Nicodème, archevêque chargé des affaires étrangères de l'Église russe, et c'est là que fut préparé le message que Mgr Wildebrandt a porté à Moscou. Mgr Nicodème, qui était venu à Paris dans la première quinzaine du mois d'août 1962, avait en effet manifesté le désir de rencontrer le cardinal Tisserand. Pourquoi lui, Maguerrand ailleurs, dit bon, il savait le russe. La rencontre eut lieu chez M. l'abbé Lagarde, aumônier des petites sœurs des pauvres au Borde, qui s'est toujours attaché aux problèmes internationaux. À la suite de cet entretien, Mgr Nicodème accepte que quelqu'un se rende à Moscou pour porter une invitation, à condition que soit donnée des garanties en ce qui concerne l'attitude apolitique du Concile. Ce que Mgr Nicodème et le Parti communiste soviétique entendent par apolitique n'est pas que l'Église s'abstienne de condamner le matérialisme athée. Pas possible, ça passe pas. Les communistes savent bien que l'on ne peut pas attendre d'une religion qu'elle accepte l'athéisme. Lénine l'a dit, et là je le cite, c'est tiré de son opuscule de la religion, ceux qui s'intéressent vous donnent les références, il dit ceci, « Amener les masses à la lutte des classes, c'est-à-dire à pratiquer des actions communes avec le parti communiste, les éduque beaucoup plus et mieux que tout. » Et amener les ouvriers chrétiens au socialisme et à l'athéisme 100 fois mieux qu'un sermon athée tout court. Donc les amener à collaborer les amène plus facilement à l'athéisme que les beaux sermons athées. Et c'est bien évident, les gens qui parlent peuvent être casse-pieds au bout d'un moment, et puis ça entre d'un côté, puis ça sort de l'autre. L'activité, c'est très différent. Le marxisme léniniste n'attend donc pas de l'Église qu'elle se rallie doctrinement à lui, mais qu'elle cesse de détourner les chrétiens de toute action commune avec le parti communiste. L'Église catholique obtient donc que les orthodoxes russes viennent à Rome, les communistes obtiennent l'engagement qu'ils ne seront plus critiqués. Le silence impressionnant de Vatican II sur le communisme trouve son explication dans l'accord secret de Metz. parce que sur le plan temporel, on le verra encore pendant la suite, jamais vous n'entendez parler du communisme. Ça n'existe pas. Surtout pas dans Gaudium et Spes, comme on verra. La double hardiesse de Jean XXIII, c'est le chapitre 3. Le pape Jean XXIII prononce le discours d'ouverture du concile le 11 octobre 1962. Deux affirmations y ont rapport avec l'accord de Metz. La première, le pape insiste explicitement sur le fait que les conciles antérieurs, 20, ont subi les pressions des pouvoirs temporels, tandis que celui-ci va se dérouler dans une parfaite liberté. De la part du pape qui a conclu l'accord de Metz et qui se prépare à faire savoir aux pères du concile qu'il leur interdit toute allusion au communisme, c'est une grande hardiesse. C'est vraiment le langage de Madiran, c'est magnifique, hein? C'est clair, c'est net. De leur parler de cette belle liberté qui est la leur. Deuxième remarque, dans le discours toujours d'ouverture. Le discours d'ouverture annonce l'intention nouvelle de ne plus procéder à des condamnations, mais d'expliquer la doctrine, plutôt que de se contenter d'une opposition aux erreurs. Sous-entendu, comme c'était le cas avant. Mais on verra que c'est pas vrai. On comprend bien qu'il s'agit d'envelopper dans les nuages abstraits d'une stratégie générale le cas particulier du soudain interdit de tout anticommunisme déclaré. Mais toute la doctrine sociale que l'Église a développée de Léon XIII à Pie XII, c'est-à-dire de 1878 à 1958, constitue une énorme entreprise pédagogique pour substituer l'explication à la condamnation. Si vous relisez les textes, vous en êtes convaincus. Donc, Léon XIII, il raconte entre nous des histoires, grosses comme la maison, hein. Elle n'est pas tant grande, celle-ci. Mais sans se priver de condamner le communisme. L'expliquer, mais le condamner. Vatican II mutile le pouvoir du magistère de l'Église. Il va favoriser un laxisme généralisé et renforcer les mouvements progressistes à l'intérieur du catholicisme. Mais dans toute la moitié orientale de l'Europe, soumise au communisme depuis la victoire des soviétiques en 1945. Ce fut une désolation voisine du désespoir. Ici, il y a une note pour expliquer cette petite phrase. Le père Werenfried von Straten écrit dès février 1963 dans son célèbre bulletin de l'aide à l'Église de l'Est, ultérieurement devenu, pour ne pas offenser les soviétiques, aide à l'Église en détresse, il écrit ceci. Environ 60 évêques de l'Église persécutée étaient présents à la première session du Concile, 60. Plusieurs d'entre eux étaient l'objet d'une pression inhumaine. J'ai vu des évêques s'attrouper comme de petits oiseaux timides, redoutant toute conversation et craignant les surveillants que le gouvernement leur avait imposés comme secrétaires. Le chapitre 4, vous mettez dans votre tête les choses qui vous intéressent, parce que je pense à un débat, puis on peut débattre après ou parler de ces choses après, mais je pense que il y a tellement d'événements qui vont se produire qu'il faut laisser finir ça. Alors le chapitre 4, c'est persistance et extension de l'accord de Metz. On ne connaît pas le contenu exact et complet de l'accord de Metz. On en connaît deux points avec certitude. Un, la venue d'orthodoxes russes au concile. Et deux, l'engagement catholique de ne pas parler du communisme. Ce que l'on ne sait pas, c'est s'il avait prévu cet accord, que l'Église se tairait sur le communisme seulement au concile, ou bien à tout jamais. Bon, cette extension universelle, en tout cas, est une réalité. C'est réalisé en quelque sorte d'emblée. Et vous allez voir comment. C'est ce que montre la différence entre l'avant et l'après accord de Metz. Entre Mater et Magistrat, 1961, et Pacem Interis, 1963, du même pape, Jean XXIII. Dans l'encyclique de Jean XXIII, Mater et Magistrat, le communisme est encore nommé pour rappeler qu'entre le communisme et le christianisme, l'opposition est fondamentale. C'est le paragraphe 34. Dans Pacem Interis, le communisme n'est plus nommé. Déjà dans Pacem Interis. Et une ouverture est faite en sa direction au paragraphe 159 et 160. C'est alambiqué, c'est compliqué, c'est difficilement compréhensible et difficile à lire. Je prie pour vous. De même, on ne peut identifier de fausses théories philosophiques sur la nature, l'origine et la finalité du monde et de l'homme avec des mouvements historiques fondés sur un but économique, social, culturel ou politique, même si ces derniers ont dû leur origine ou puisent encore leur inspiration dans ces théories. Le monde est changé. Une doctrine, une fois fixée et formulée, ne change plus. Tandis que les mouvements ayant pour objet les conditions concrètes et changeantes de la vie ne peuvent pas ne pas être largement influencés par cette évolution. Alors maintenant, c'est plus clair. C'est le paragraphe 160. Il peut arriver par conséquent que certaines rencontres au plan des réalisations pratiques qui jusqu'ici avaient paru inopportunes ou stériles puissent maintenant présenter des avantages réels ou en promettre pour l'avenir. Quant à juger si ce moment est arrivé ou non, ou à déterminer les modalités et l'ampleur d'une coordination des efforts, en matière économique, sociale ou politique, à des fins utiles au vrai bien de la communauté, ce sont là des problèmes dont la solution et l'ampleur relèvent de la prudence. T'es mon œil. Imaginez-vous les évêques recevoir ce texte. On ne va pas dire que la masse populaire a lu ça, non. Mais ce sont des directives. C'est quoi ça? C'est renouveler l'idéologie progressiste. Et c'est pourtant contre cette illusion que Pie XI avait proclamé que le communisme est intrinsèquement pervers et qu'il ne faut collaborer en rien avec lui. Divini Redemptoris, paragraphe 57. On dira peut-être que dès la victoire soviétique de 1945, une partie du clergé avait déjà baissé la garde. Mais le Saint-Siège ne l'avait pas fait avant l'accord de Metz. Et 45-62, c'est un bel espace. Le chapitre suivant, Paul VI, le pape de l'accord de Metz. La quatrième session du Concile discute du schéma 13, qui traite de l'Église dans le monde, et qui deviendra la constitution pastorale Gaudium et Spes. Vous verrez que c'est le fondement du changement temporel conciliaire. Au début novembre 1965, Monseigneur Lefebvre remet au secrétariat du Concile contre récépissé une pétition signée par 454 cardinaux qui réclament par écrit le renouvellement solennel de la condamnation du communisme marxiste-léniniste et stalinien. Bien précisé. Donc au début novembre. Mais le 13 novembre, il n'en est même pas question quand vient en discussion la partie du schéma concernant l'athéisme. L'athéisme va être condamné, en tant que tel, sans aucune mention du communisme. Les protestations n'y font rien. Ni le recours de Mgr Carli, parce qu'on les appelait les carlistes, si vous vous souvenez, c'était Mgr Carli qui avait eu l'initiative de la pétition. Alors on les appelait les carlistes. Ni le recours de M. Carli devant le tribunal administratif du Concile. Et le président de ce tribunal, qui s'appelait Mgr Garone, s'excuse. mais observe qu'une condamnation du communisme contredirait l'intention pastorale des papes Jean XXIII et Paul VI de ne plus prononcer de condamnation. L'opinion circule qui assure que Mgr Montini fut l'inspirateur de la politique dite d'ouverture, ça me fait penser à l'Europe, dite d'ouverture, en parenthèse à gauche, de Jean XXIII. Mais ça, c'est un détail, finalement. L'essentiel est ailleurs. C'est que pendant cette époque-là, durant tout le pontificat de Paul VI, l'autorité morale qui dit au monde la vérité sur le communisme, ce n'est pas Rome, c'est Solzhenitsyn. À la mort de Jean XXIII, les preuves médiatiques, Alexis Adjoubaï, le rédacteur en chef des Invectia, dans une conférence de presse qu'il a tenue au Caire, donc à la mort de Jean XXIII, déclarait que le pape le défunt avait été un homme qui voyait loin et dont les efforts pour la paix et la sécurité mondiale ont reçu le soutien chaleureux de l'URSS. Au même moment, Waldeck Rocher, secrétaire général adjoint du Parti communiste français, expliquait dans un discours prononcé à Saint-Denis ceci. Nous, communistes, qui sommes des laïcs, nous nous sommes associés à l'hommage qui a été rendu à la mémoire de Jean XXIII en raison de son activité en faveur de la paix. Ces deux déclarations dans Le Monde du 12 et du 15 juin 1963. Paul VI sera à sa mort associé en un même hommage par le secrétaire général du Parti communiste, tout le monde se souvient de lui, on l'a assez vu à la télévision, Georges Marchais, qui, le 7 octobre 1978, à 13h25 sur l'antenne RTL, déclare « Si le nouveau pape continue ce qu'a été l'œuvre de Jean XXIII et de Paul VI, on ne pourra que s'en féliciter. » Donc, ce chapitre est fini. Après, Jean-Paul II et la délivrance. Jean-Paul II devient pape à la fin de l'année 78. La presse communiste mondiale lui est aussi favorable qu'elle l'a été pour ses deux prédécesseurs. Mais à la différence de ces deux, Jean-Paul II connaît le communisme, son intrinsèque perversité et son habileté diabolique. Il sait. Il est tenu par l'accord. Quand il arrive au trône de Saint-Pierre, il trouve l'Église dans un état d'autodestruction, on peut le dire. Et même dans la curie romaine, il ne sait pas sur qui il peut compter et de qui il doit se méfier. La précaution de s'entourer de prêtres polonais aura elle-même été insuffisante, comme on finira par l'apprendre il y a quelques mois, en 2006. On l'a appris seulement là. Son premier voyage en Pologne est considéré par le Kremlin comme un signe que le pape prend acte de la réelle existence du monde socialiste. Donc, il est quasi approuvé. Jean-Paul II n'oppose aucun démenti à cette interprétation. Il est en priorité préoccupé par les conséquences de l'accord de Metz. L'abstention conciliaire en 16 ans, est passée dans les mœurs cléricales. L'interdit s'est incrusté dans les diocèses, dans les journaux, dans les revues, dans les instituts, dans les conférences d'intellectuels catholiques. Il s'y ajoute que le Kremlin, à ce moment-là, tient toujours en otage, sous son contrôle militaire, politique et policier, la moitié de l'Europe chrétienne. Puisque Jean-Paul II ne peut combattre le communiste en parole, il va le faire en suscitant un énorme spectacle populaire. Il manifeste une impressionnante présence réelle en soulevant des foules enthousiastes. Il suscite une massive espérance mobilisatrice. De Pologne, cette espérance gagne toute l'Europe annexée. Les communistes n'y comprennent rien, mais peu à peu, ils en constatent les puissants effets. Ils décident alors de riposter par l'attentat du 13 mai 81. Après cet attentat manqué, la presse communiste mondiale reçoit l'ordre de ressortir contre le pape, le prêt-à-porter diffamateur, rebâchant les accusations polyvalentes d'intégrisme, de racisme, d'obscurantisme. C'est trop tard. L'effondrement de l'Empire soviétique est devenu inévitable dès 1989 et l'URSS éclate et disparaît en 1991. Dès lors, le communisme n'existe plus, comme on l'a entendu dans nos conférences ici. N'existe plus en Europe, parce que vous vous souvenez de M. Somade, il nous a parlé des communistes dans d'autres pays, où ça existe encore. Il n'existe plus en Europe que sous, et j'aime bien la formule, que sous la forme de déchets radioactifs. Je crois que c'est vraiment les mots qu'il faut pour le dire. On peut rajouter quelque chose ici qui me paraît intéressant. Alors, un roman qui est sorti de Vladimir Volkov, l'hôte du pape, aux éditions du Rocher. Volkov, en 2004, écrit ce roman. Moi, je l'ai lu. C'est un tout grand roman. C'est magnifique. Si vous aimez l'âme russe, vous serez très content. Si vous voulez la connaître, lisez ce livre. Magnifique. Et j'apprends maintenant, dans la structure du roman, le squelette du roman, ce sont des faits que Madiran rapporte et que je vous lis. Lisez ce livre, l'hôte du pape. Alors, l'agent soviétique, Mgr Nikodem, qui avait négocié pour Moscou l'accord de Metz, mourut le 5 septembre 1978, entre les bras de Jean-Paul Ier. Dans le roman, il se confesse à Jean-Paul. Pape du 26 août au 28 septembre. Il ne s'agit probablement pas d'une conversion soudaine. Plus vraisemblablement, à force d'attitude et de paroles pieuses, il avait fini par être touché par la grâce. Il existe aussi à ce sujet la thèse inverse, selon laquelle il aurait toujours eu la foi chrétienne et manipulé le KGB. Je vous cite Madiran, hein. Dans les dernières années de son parcours œcuménique, il avait beaucoup menti sur la situation réelle en URSS. Il avait dit aussi, quelque temps avant sa mort, que l'unité des chrétiens ne pourrait se réaliser qu'autour du pape. Mais c'est là un pronostic qui n'engage en rien et que l'on n'a remarqué qu'après les circonstances de son décès. Dans ces circonstances, on sait seulement qu'il parlait normalement avec Jean-Paul Ier quand une soudaine défaillance l'emporta en quelques instants. Et aussi, on savait ce que Jean-Paul Ier confia le 7 septembre en recevant les prêtres à Rome, les prêtres de Rome, que le père Wenger rapporte dans un livre. Jean-Paul Ier disait ceci de Nicodème: jamais de ma vie je n'avais entendu des paroles aussi belles sur l'Église. Je ne puis les répéter, cela reste un secret. Oui, j'en suis resté frappé. C'est un évêque orthodoxe, mais comme il aimait l'Église. Et je crois qu'il a beaucoup souffert pour elle en travaillant beaucoup pour l'Union. Donc, 20 jours après, Jean-Paul Ier disparaît. Alors, ça, si vous voulez, la structure, le squelette, c'est le roman de Volkov. Alors, l'épilogue, on est en 2006. Le communisme est toujours là. Il est installé par infiltration au cœur de nos institutions politiques, médiatiques et religieuses. En septembre 2006, le cardinal Glemp, primat de Pologne, dans une longue déclaration à l'agence italienne ANSA, explique comment Jean-Paul II fut espionné par des agents communistes infiltrés au Vatican. Il cite notamment le cas du père dominicain Konrad Heimo, responsable du centre d'accueil des pèlerins polonais à Rome. Moi, quand j'ai lu ça, puis comme j'ai un fils qui était garde du pape à Rome pendant 3 ans, je dis, tu te rends pas compte ce qui s'est passé à Rome. Il y a un prêtre polonais qui était chargé de recevoir les pèlerins polonais, c'était un agent du KGB. Il me dit, mais au Vatican, tout le monde le savait. Son rôle d'agent communiste, dit le cardinal Glemp, ne fait aucun doute. Dans cette même déclaration, le cardinal rappelle que le 25 août 2006, l'Église polonaise a publié un mémorandum sur la collaboration des prêtres avec les services secrets communistes. Il représente environ 15% du clergé polonais. L'infiltration d'agents communistes à l'intérieur du Vatican et partout dans l'Église avait pour but principal d'arriver à influencer, orienter, contrôler l'Église catholique comme ils ont contrôlé l'Église orthodoxe. Comment, pourrait-on se demander, des prêtres ont-ils pu être enrôlés dans une telle entreprise? De deux manières. Premièrement, depuis le milieu des années 30, l'appareil marxiste-léniniste recrutait dans les organisations des jeunesses communistes quelques sujets doués, capables d'entrer au séminaire et d'aller jusqu'à l'ordination. D'autre part, il y a ceux qui, déjà prêtres, devinrent des agents par l'effet d'une manipulation, d'un chantage, d'une compromission secrète, par exemple quelqu'un qui est homosexuel, on le menace, ou aussi par une perversion idéologique. Pour les questions politiques, sociales, culturelles, la référence, ça c'est important, pour les questions politiques, sociales, culturelles, la référence pastorale demeure officiellement cette constitution conciliaire Gaudium et Spes, profondément viciée par la décision consécutive à l'accord de Metz d'ignorer le communisme. Et la fin, un tel désarmement intellectuel face au marxisme-léninisme a durablement débilité la pensée, l'action, les institutions catholiques. Cette intoxication porte une grande part de responsabilité dans la crise de l'Église. Là, il termine son petit livre et il y rajoute une annexe. Celle-là, je vous la lis. Enfin, je vous en parle en tout cas. Karl Marx, dans le Missel des dimanches, en 1983. Tout Missel fait mémoire des saints le jour anniversaire de leur mort. Pour le 100e anniversaire de la mort de Karl Marx, la liturgie de l'épiscopat français a fait mémoire de lui le 14 mars 1983, 100 ans après la mort de Karl Marx, 1883. Où ça? Dans son Missel des dimanches, à la page 189. Voici le texte entier de cette mémoire. Le 14 mars 1883, à Londres, mort de Karl Marx, économiste et philosophe allemand. Certains s'étonneront de voir mentionner dans un missel le représentant le plus connu de l'athéisme moderne. Mais le retentissement du mouvement qu'il a lancé est d'une telle importance qu'on ne peut le passer sous silence. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit avant? L'athéisme marxiste a été condamné à plusieurs reprises par les papes, tandis que l'appréciation de la valeur de l'analyse socio-économique proposée par le marxisme relève des sciences humaines. Nombreuses sont les interprétations de la pensée de Marx. La plus courante, et celle qui est officielle dans les États marxistes, continue à voir dans la religion une aliénation dont l'homme doit s'affranchir. Fin de la mémoire de Karl Marx dans le Missel des dimanches de l'épiscopat français, 1983. Alors cette monstruosité, elle affirme que le communisme se trompe sur la religion, mais seulement là, pas ailleurs. Rien sur son système politique, rien sur son système social, rien sur sa technique de l'esclavage, rien. Pie XII, au contraire, enseigné avec la plus grande netteté, nous rejetons le communisme en tant que système social en vertu de la doctrine chrétienne. Et je vous lis la dernière phrase de Madiran concernant cette page 139. La page 139 du Missel des dimanches est le signe le plus éclatant de la servitude mentale et politique où, à la suite de l'accord de Metz, sont tombés le noyau dirigeant et l'appareil bureaucratique de l'épiscopat français. Voilà, j'ai terminé, mais je rajoute quand même quelque chose. On parle de la France, c'est la même chose ici. D'abord parce qu'on est influencé, et puis parce qu'on parle français, par exemple. Je vous remercie de votre attention. Si vous voulez parler de ce sujet ou d'autre chose, et si je peux répondre quelque chose à des questions, je le fais. Dans cas contraire, à vous la parole. Merci de m'avoir écouté si attentivement. Bon, avant d'avoir lu ça, je suis obligé de vous dire que je ne savais pas. Alors, je reviens au mouvement, au MCCVS. Nous ne faisons rien d'autre que d'essayer d'être laïque et d'appliquer nos principes. Mais bon, on ne doit pas non plus être triste ou négatif face à des réalités aussi monstrueuses, c'est le cas de dire, aussi monstrueuses. Hein, mais on doit faire ce qu'on doit faire là où on est. À chaque votation, maintenant qu'on a réussi à faire connaître dans le public les principes qui concernent le temporel de la chrétienté, à chaque votation, on peut se faire quand même la réflexion. Est-ce que, lors de la votation pour la caisse unique, qu'est-ce que nos principes nous disent de faire? Mais j'ai trouvé tout de suite. Il faut arrêter autant que possible d'étatiser les choses, qui est propre au système communiste. C'est clair. Ben c'est lié à nos principes. Sinon, on ne sait pas à qui on appartient, qu'est-ce qu'on fait ?